Et vous êtes toujours sur Radio Canus en 2-2 en direct du Salon des éditions Libertaires. Alors je vous rappelle, c'est 28 rue d'Enfer Rochereau si vous voulez nous rejoindre. Et on a nos premiers interviewés du matin. Merci d'être là aussitôt un dimanche matin. Mais bon, en même temps, il y a une conférence, je crois, à 11h30. Donc c'est Philippe Pelletier et Renzo. Alors on m'a dit qu'il ne fallait pas dire ton nom, il paraît.
Non. Ouais. Bah, c'est compliqué. Forero.
Voilà. Donc, qui sont là avec nous pour nous parler du débat qui aura 11h30, qui est géographie et anarchisme. Voilà. Alors, c'est un vaste débat, a priori. Les gens se disent, mais pourquoi lier la géographie et l'anarchie? Donc, on peut peut-être déjà débroussailler ça.
C'est pas 11h?
C'est 11h30.
Ah, c'est 11h30.
C'est 11h30.
Oh, c'est super. Alors,
tu pourras prendre un café.
J'ai entendu quelqu'un qui a dit que la géographie, c'est la guerre. Du coup, si tu peux...
Ah, oui, bah, c'est Yves Lacoste, dans les années 70, pardon, juste après mai 68, qui avait écrit un livre un petit peu provocateur. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre, pour expliquer le lien historique qu'il y a entre les militaires, l'État et les géographes. Or, dans le livre qu'on propose, c'est que en fait, il y a aussi un lien avec l'anarchisme, de deux façons, sur le fond. C'est un peu le thème de la conférence, et aussi dans l'histoire, c'est-à-dire que en fait, parmi les fondateurs du mouvement anarchiste international, après la Commune de Paris, dans le sillage de la Fédération jurassienne et des bakouninistes, eh bien, ces fondateurs-là sont très majoritairement des géographes, Élisée Reclus, Charles Perron, Mikhail Dragomanov, Léon Metchnikov, et puis après, bien sûr, Pierre Kropotkin. Donc en fait, on pense que le rapport à l'espace, le rapport au territoire, induit le projet politique du fédéralisme libertaire et de l'autogestion.
Renzo, quelque chose à dire, à ajouter
Sur ces questions-là, non, je crois qu'il a déjà tenu.
Mais du coup, Philippe, ton livre, on va rentrer dans le vif du sujet, hein, c'est que des gens disent que tu fais un peu de la provocation à travers ce livre-là. Par rapport au lien que tu fais entre l'anarchie comme étant initiée par des géographes et le lien que tu fais avec l'actualité où on dit que tu es un petit peu sur une ligne, comment dire, un peu limite de point de vue des décroissants anarchistes, voilà.
Disons qu'il y a deux choses, je précise, initié, c'est pas tout à fait ça, c'est le fait que des idées anti-autoritaires, anti-étatistes, fédéralistes existaient déjà au sein du mouvement ouvrier, en particulier à partir de Proudhon, ouais. Et puis au sein de la Première Internationale, sauf à cette époque-là, tous ces militants anti-autoritaires ne se disaient pas anarchistes, pouvaient se référer des fois à l'anarchie. C'est ensuite, après la Commune de Paris, notamment sous l'impulsion de Kropotkin, de Reclus et Cafiero et d'autres militants ou Malatesta, que ils ont décidé d'aller un cran plus loin dans l'anti-autoritarisme et d'utiliser le mot anarchiste, notamment par provocation vis-à-vis des marxistes qui qualifiaient déjà à l'époque Bakounine d'anarchiste, dans le sens de quelqu'un qui finalement est un petit peu autonome et nie l'État, etc. Donc par un espèce d'effet de miroir, ils se sont réappropriés le terme d'anarchisme. Donc en fait, ils se placent dans une lignée. Alors par rapport aux positions que je développe, mais que je discute, il n'y a pas de dogme, hein, c'est la pensée libre, la pensée ouverte, sur des problématiques contemporaines, en particulier par rapport aux problématiques environnementales. Ce que je trouve intéressant, c'est que Élisée Reclus est un géographe par l'essence même de la géographie, qui est en gros l'analyse des rapports entre les hommes et l'environnement, les hommes et les milieux dits naturels, mais aussi les milieux urbains et les milieux sociaux, la géographie et les géographes sont bien placés pour réfléchir à ces problématiques-là. Alors on pourrait se dire, Reclus, c'est finalement le 19e siècle, les problématiques de cette époque-là sont pas celles de nos jours. Or, je pense que, au contraire, le mouvement socialiste et le mouvement anarchiste qui se sont constitués au moment de la première révolution industrielle ont encore des choses à nous dire au moment de la troisième, voire quatrième révolution industrielle actuelle, qui est basée un petit peu sur les mêmes principes capitalistes, c'est-à-dire la recherche du profit, le salariat, et là, c'est le débat, la question des ressources. Et en fait, et le rapport des sociétés humaines à l'environnement. Et là, effectivement, Reclus nous apporte des choses assez intéressantes, ne serait-ce que déjà, il n'utilise pas le terme d'écologie qui était déjà connu à l'époque, qui a été inventé par un social-darwinien, Haeckel, et lui préfère le terme de mésologie.
Tu peux juste expliciter la différence?
La mésologie, c'est l'étude du milieu.
D'accord.
Et ça tient en compte un peu plus l'être humain et son milieu que l'écologie, que des fois, ça peut être vu comme quelque chose à part l'homme, à part l'être humain. Et justement, dans les mouvements écologistes, il y a eu une partie du mouvement écologiste qui tient la nature comme quelque chose de sacré et de vierge qu'on ne doit pas toucher. Et justement, la position des Reclus et d'autres anarchistes, comme par exemple Bookchin, Murray Bookchin, ils disent que l'homme, il fait partie de la nature. Et on a une responsabilité envers la nature, on peut la embellir, on peut l'abîmer aussi. Et c'est justement ça la question de gestion du territoire qui est en ce moment super important avec tous les Notre-Dame-des-Landes, les TST. Du coup, qui gère le territoire et pourquoi, pour faire quoi? Est-ce que les peuples, ils décident sur ce qu'on fait sur le territoire? Et voilà, c'est tout.
C'était bien, mais c'est gentil d'avoir explicité, parce que je vous rappelle qu'il est 10h30 du matin, un dimanche, et il y a des mots qui sont difficiles, parfois au réveil.
Voilà. Disons que le terme de mésologie est un terme que Reclus a exhumé, qui avait un petit peu disparu de la circulation, mais comme l'a dit Renzo, c'est effectivement la science des milieux. C'est-à-dire que c'est l'interrelation qui compte. C'est-à-dire qu'il n'y a ni fétichisation de la nature, ni fétichisation de l'être humain. Et on peut même aller plus loin, et peut-être ça sera le débat de tout à l'heure, à 11h30, oui. C'est qu'il n'y a pas d'essence de la nature et pas d'essence de l'être humain. Parce qu'à partir du moment où on essentialise, on tombe dans quoi? On tombe dans le religieux. Et pour le coup, c'est l'analyse que je propose, et je ne suis pas le seul, c'est que dans ce processus d'essentialisation de la nature et de l'être humain, et donc une sorte de processus de naturalisation de tout, eh bien, on ne regarde plus la question sociale de la même façon. Et surtout, à partir du moment où on essentialise, on ne touche plus. Les religieux, ils sont contents, parce que la création, elle est intouchable, c'est l'œuvre de Dieu, elle est parfaite. Donc on ne touche pas, et de fait, on constate que dans la mouvance écologiste au sens large, ou même dans les discours du Vatican ou de toutes les églises, il y a un discours conservateur par rapport à la nature, mais qui est aussi un discours conservateur par rapport à la société.
Et du coup, justement, dans l'intitulé du débat, tu faisais la différence entre, alors je ne sais pas si c'est toi qui as fait l'intitulé ou pas, mais il y avait la différence entre post-moderne et post-industriel, et toi tu dis qu'on est plus dans une société hyper-moderne et hyper-industrielle. Et qu'est-ce que tu entends par là? C'est justement cette désessentialisation ou...
C'est-à-dire que c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure par rapport à la première révolution industrielle. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours actuel qui nous affirme que nous sommes dans une société en fait post-industrielle et post-moderne. Alors, surtout post-industrielle, on serait passé à une ère de services où c'est l'économie financière qui dominerait le monde. Alors certes, la finance domine le monde, mais la finance, elle est articulée, elle est appuyée sur des richesses matérielles et sur l'exploitation du travail. Et ça, c'est du concret, c'est du solide, c'est du visible. Hein, les bulles spéculatives ne pourraient pas exister si à un moment donné, il n'y avait pas un retour sur ces capitaux-là. Et les retours sur les capitaux, c'est pas des flux virtuels de comptes bancaires à la vitesse électronique. C'est parce que derrière, il y a du blé, il y a du pétrole, il y a du sucre, il y a etc., des bananes, tout ce que, des bagnoles, il y a tout ça. Donc en fait, la société actuelle, c'est une société bel et bien industrielle et surtout hyper industrielle, parce qu'il n'y a jamais eu autant d'industries, de manufactures, et par conséquent, il n'y a jamais eu autant d'ouvriers, de travailleurs dans le monde. Il y a un prolétariat énorme.
Ça explique aussi que la lutte des classes, elle est toujours valable. C'est même Reclus, pour Reclus, c'était un de ses lois naturelles, entre guillemets, la lutte des classes. Et certains, c'est pas très connu, quoi, parce que Reclus, maintenant, il essaie de l'assimiler à l'écologie et tout. Mais bon, il était pour la lutte des classes.
Mais du coup, c'est intéressant parce que est-ce que vous pensez, du coup, tous les deux, que cette notion de post-industriel ou de post-modernité ne viendrait pas plutôt du fait que dans nos contrées privilégiées, on ne voit plus, ou très peu, finalement, la masse de travail nécessaire à notre bien-vivre, quoi. Enfin, ce qu'on appelle le bien-vivre.
Bah oui, il suffit de voyager on est dans un pays dit sous-développé pour voir ce qui se passe et comment les gens ils galèrent toujours pour travailler 60 heures par semaine ou plus.
Et même ici en France, bon, on parle beaucoup de désindustrialisation, ce qui est relativement vrai, mais en même temps, on voit dans les campagnes qu'il y a une multiplication de petits ateliers, de petites entreprises, et que le prolétariat, il s'est strictement ouvrier, industriel, alors que dans la conception anarchiste, le prolétariat et le monde des travailleurs est beaucoup plus large. C'est aussi les travailleurs de la terre, les paysans, les travailleurs des services, y compris des services publics, hôpitaux, écoles, etc. Eh bien, on se rend compte que dans les campagnes, en fait, c'est des milieux qui sont très prolétarisés, très ouvriers, nous, on pense qu'il y a eu tout un discours de sortie de la lutte des classes, mais d'un point de vue idéologique. Donc, il y a un combat culturel et politique à mener. C'est-à-dire que non, c'est pas vrai. Il y a toujours des travailleurs. Il y en a de plus en plus. Et il y a de plus en plus exploitation de la force de travail. Alors, la difficulté, pour rebondir à ce que tu disais sur les pays actuels du centre industrialisé, c'est qu'effectivement, il y a un chômage structurel de masse. Et il y a une précarité. Mais
c'est pas nouveau. Dans les années 20, avant.
Oui.
Dans les années 30. Et bon, 1896, vers là.
Oui, il y a des cycles. Il y a des cycles. Ouais. Et en fait, c'est pas une inconnue dans l'histoire du mouvement ouvrier anarchiste.
Moi, ce que je voulais dire, du coup, le problème de la disparition de l'idée de lutte des classes, là, t'en parles dans la géographie, du coup, dans l'impact que ça peut avoir dans l'écologie, dans les choses comme ça, on la voit disparaître dans tous les domaines qui nous concernent, dans nos idées d'extrême gauche. On l'a vu disparaître quand même dans le féminisme, on l'a vu disparaître dans plein d'endroits, alors que normalement, moi j'avais l'impression que c'était le fondement de nos combats. Et pour revenir sur la précarisation, parce qu'on est passé dans un monde informatisé où on nous fait croire que les développeurs web, c'est des gens qui ont fait beaucoup d'études, oui, mais eux aussi, du coup, on ne s'en rend pas compte, mais ça devient un prolétariat, puisque eux aussi ils galèrent, eux aussi ils ont du mal à vivre, parce qu'ils ont beau avoir fait des études et être sur un ordinateur en train de taper, ils sont les trois quarts du temps mal payés parce qu'ils sont auto-entrepreneurs ou dans des statuts pourris. Et du coup, le prolétariat, il a pris des formes beaucoup plus variées que quand on était dans un monde juste industriel, où effectivement, on voyait les sorties d'usines. Là, aujourd'hui, le gars qui est autonome, qui bosse chez lui, et qui se fait exploiter parce qu'il bosse pour plein de gens et qu'il n'arrive pas à boucler les fins de mois, on ne le voit plus.
En fait, on le voit plus en Europe, en tout cas. Mais si on va en Chine, on voit les suicides les plus grands.
Ou en Inde, on le voit encore, mais chez nous, on ne le voit plus, ça reste caché.
Absolument, et là, c'est là que, d'un point de vue idéologique, c'est intéressant, parce qu'il y a la formule de « small is beautiful » qui a fait quand même Flores dans les années 70, 80, etc., de Ernst Schumacher, qui prolifère et qui séduit une partie du mouvement alternatif, plus ou moins radical, effectivement, ce qui est petit et davantage maîtrisable, ça reste à notre portée, à l'échelle humaine, même si je ne comprends pas toujours ce que ça signifie, l'échelle humaine. Mais derrière, effectivement, si on peut contrôler ça, on oublie aussi les éléments plus grands et les liens qui sont avec les autres unités. Par conséquent, le lien social, le lien politique, ce que les anarchistes appellent le fédéralisme, fédéralisme libertaire, donc association des producteurs et des consommateurs, c'est le lien qui est important, c'est pas seulement l'unité, la taille de l'unité. Or, ça m'a toujours interpellé, ce small is beautiful, parce qu'on a bien vu que dans le capitalisme suédois ou dans le toyotisme japonais, effectivement, ils avaient compris que les grandes masses, les grandes usines, c'était des citadelles ouvrières, donc c'était dangereux d'un point de vue mouvement social. Donc il fallait aussi casser ça, que le travail, il était moins efficace, parce que le travail à la chaîne, il est effectivement abrutissant, donc il fallait plutôt des petits ateliers où les travailleurs s'organisaient eux-mêmes, donc avec l'idée que t'es plus ou moins autonome, enfin tout ce qui est un petit peu à la mode, et en cherchant, parce que maintenant on trouve plus d'informations grâce à la toile, Schumacher, c'est quelqu'un qui fait partie de l'Église. Donc c'est un religieux. Donc on retombe toujours sur les mêmes choses, c'est-à-dire la petite communauté des croyants, si possible, pour l'Église, et surtout on ne pense pas à la question sociale, dans son ensemble. C'est assez étonnant, quoi.
En fait, pour rebondir sur ce que tu disais, pour toi, le problème, ce n'est pas fondamentalement d'avoir des petites unités, genre, qu'on parle, genre à Maputo, c'est plutôt de ne pas perdre le lien avec le reste de la société au nom d'un repli sur ces petites unités.
Absolument, quoi. Absolument. Il est évident que la petitesse et une taille permet l'autogestion, mais l'autogestion sans des liens fédératifs, ça ne sert à rien. Si on fait, imaginons une petite communauté où on décide de fabriquer des salades, de cultiver des salades d'une certaine variété, et si la communauté d'à côté décide de faire la même variété de salade et celle d'après la même, etc., le monde va être inondé de salades et qui s'occupe des carottes, des fraisiers, des poires, des pommes. Donc et ça, est-ce que c'est le marché capitaliste libre qui va faire ça, ou c'est au contraire les producteurs et les consommateurs organisés, et qui dit organisation dit fédération, enfin.
Ouais, c'était exactement là, j'ai une citation de Bookchin qui disait exactement la même chose, qu'aucune communauté doit rêver d'arriver à l'autarcie, ni a besoin d'y essayer. Économiquement, la grande variété de ressources qui sont nécessaires pour faire beaucoup de produits nécessaires empêchent l'insularité enfermée et l'esprit déclocher. Loin d'être un frein, cette interdépendance entre communautés et régions peut être vue comme un atout, culturellement et aussi politiquement. L'interdépendance entre communautés n'est pas moins importante que l'interdépendance entre individus.
Et ça, du coup, le discours, c'est pour les écologistes aujourd'hui, c'est super radical, parce qu'ils ne sont pas du tout dans cette idée-là, quand même. Moi, j'ai l'impression que...
Bah, en ce moment, c'est la décroissance qui l'importe, on va dire.
C'est-à-dire... Enfin, je ne sais pas... Tu veux peut-être terminer ?
Non.
En fait, là, je voyais deux choses dans ce que tu voulais dire. C'est que d'un côté, effectivement, on va assister peut-être auprès des plus radicaux une tendance à l'émiettement, à la fragmentation, à l'isolement. Et derrière, c'est un petit peu le risque du chacun pour soi, éventuellement de l'entre-soi, peut-être même dans certains cas, un côté un petit peu sectaire. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis de l'autre, on dirait presque un partage du travail. On a les politiciens verts qui assurent le relais sur la scène politique nationale et internationale, ce que j'appelle l'écolocrature, et qui aussi monopolise le discours, c'est-à-dire qui, avec un discours hyper catastrophiste, c'est la fin du monde, le réchauffement de ceci, le manque de cela, la planète est finie, c'est foutu, il faut serrer la ceinture. Qui, comme par hasard, discours, alors il faut après décortiquer effectivement la question des ressources renouvelables ou pas, ou des énergies, mais ce discours-là, il va en convergence avec le discours capitaliste libéral dominant strict, c'est de se serrer la ceinture, parce qu'il faut les fameuses dettes, rembourser les banques, pas d'un coup.
Et il faut acheter vert, parce que voilà, ça devient plus profitable pour les capitalistes.
Et par exemple, le discours sur la dette, j'étais très étonné parce que puisque je suis géographe et dans le milieu académique, j'ai vu apparaître depuis 5-6 ans la notion de dette écologique. Et je me suis vraiment interrogé sur cette notion-là qui me paraissait, je me regarde, je me dis, mais je dois quoi à qui? Nous devons quoi à qui? Et donc, y a plusieurs définitions de la dette écologique, mais ce que j'ai trouvé en cherchant, c'est que c'est en fait un institut d'écologues et d'écologistes, parce que c'est les verts latino-américains chiliens, qui a fabriqué cette notion de dette écologique. Et le ténor de cet institut, c'est un militant vert proche de l'Église.
Donc, c'est souvent le cas en Amérique du Sud.
Comme c'est souvent le cas en Amérique du Sud, tout à fait. Donc là, et la notion de dette est une notion complètement religieuse. Hein.
Mais
après, pas pour défendre les écolos, mais le discours catastrophiste, il existe aujourd'hui parce qu'on a franchi des paliers dans la destruction de la planète qu'on n'avait pas franchi dans les années 50 ou dans les années 40.
Ouais, mais même dans les années, il y avait à l'époque de Malthus, dans les années à la fin de 1800, on parlait déjà de que la planète, elle était surpeuplée, il faut faire quelque chose. Déjà à cette époque, la France, elle était plus, on avait abattu plus de forêts qu'il y a maintenant. Maintenant, il y a plus de forêts en France qu'il y a 100 ans. Mais à l'époque aussi, on va détruire la planète et tout, il faut qu'on soit moins nombreux, les mêmes discours qu'on a maintenant.
En fait, ouais, alors sur le discours moins nombreux, personne n'est malthusianiste aujourd'hui à part moi, mais non, c'est quelque chose qui est quand même pas très répandu et qui est mal vu.
C'est pas... ouais, ah, j'en ai vu,
À part dans certains milieux écolos.
J'ai même des potes anarchistes qui sont, je vais pas avoir d'enfants parce que l'aimant il est foutu.
Ouais, moi c'est pas pour cette raison, mais bon bref. Oui, le catastrophisme, il a toujours existé, je suis d'accord, mais la société aujourd'hui, enfin la Terre, je veux dire, la planète telle qu'elle est aujourd'hui, elle est quand même beaucoup plus abîmée qu'elle l'était de l'époque de Malthus, par exemple. Sauf, je suis d'accord sur la France, parce que, du coup, lié à la révolution industrielle, le fait qu'on a déporté plein de productions ailleurs, du coup, les terres se sont relibérées en France et les arbres ont repoussé, etc. C'est pas une volonté de replanter des arbres en France. C'est que on a abandonné de la terre à certains endroits et les forêts se sont reconstruites. Il y a pas, moi je pense que c'est plus comme ça qu'il faut le voir. Et le discours catastrophiste qui m'énerve comme vous, mais que je comprends parce que moi j'ai l'impression qu'on a que tous les 50 ans on franchit un nouveau cap dans la destruction de ce.
Ouais, mais là je pense que c'est un vrai débat que le mouvement émancipateur doit reprendre à son compte. En se forgeant ses propres analyses à partir de ses propres constats, sans remettre les constats à l'écolocrature scientifique et technocratique. C'est très important. Mais il y a des cadres généraux, il n'y a pas besoin de faire bac plus 5 ou bac plus 12 pour bien maîtriser le truc. C'est-à-dire, tu as raison, c'est très important la question des ressources et des paliers. Il y a une donnée fondamentale, c'est qu'on est 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Ah, le siècle dernier, temps de Malthus, c'était quoi ? 1 milliard, pas plus. Donc, mécaniquement, physiquement, dans le sens de physique, comme il y a plus d'êtres humains sur la Terre, que la Terre reste de la même superficie, effectivement, oui, mais il a toujours été fini.
Tout à fait.
Les Grecs, ils savaient que la Terre était ronde, donc la finitude n'est pas un problème, et pas un problème métaphysique. Parce que si on nous dit que c'est un problème métaphysique, c'est foutu. On n'a plus d'imaginaire. Alors c'est une sous-branche du discours sur la finitude que je vois personnellement, c'est-à-dire il y a un matraquage, c'est Thatcher, there is no alternative, c'est Tina, il n'y a pas d'alternative, le monde est fini, vous n'avez pas le choix. C'est un discours qu'on entend tout le temps. Or, justement, mon point de vue, c'est justement déplacer les limites. Alors, quelles limites ? Là, c'est là la discussion du mouvement social. Mais à partir du moment où tu es beaucoup plus nombreux sur Terre, de fait, tu as plus de densité, t'as plus de terres cultivées et t'as aussi
t'as
ce que
plus d'impact forcément.
Il y a plus d'impact. On est d'accord. Mais il y a ce que tu dis. Attention, les forêts. Il y a aussi une volonté de la part des propriétaires privés de la terre, des paysans, de reboiser parce que ça leur fait une rente.
Oui.
Si l'arbre coûte rien, c'est la lande.
Ça tournerait bien à la question de la gestion du territoire. Qui gère et pour faire quoi ? Bookchin, il pensait que voilà, on n'est pas tous responsables de la même façon de dommage parce qu'on n'a pas tous la même. On n'arrive pas à avoir le pouvoir sur les ressources, sur l'aménagement.
C'est ça le cœur du. Pour moi, enfin, si je comprends bien le discours, mais, et que je partage d'ailleurs, c'est ça le cœur du problème, c'est de mettre tout le monde sur un même pied et de dire on est tous responsables pareil, alors qu'au final, non.
Bah, il y a des classes sociales. On sait qu'il y a des classes sociales et il y a des gens très puissants qui mettent l'argent et pour construire les aéroports où ils veulent, peuvent détruire la forêt à côté et tout. Et la question revient à récupérer
nos pouvoirs.
Je savais
que tu étais coincé.
mais par exemple, très concrètement, l'importance de ce discours à tous les niveaux, y compris dans l'institution scolaire, c'est que maintenant, dans certaines écoles primaires, on fait calculer aux gamins leur empreinte écologique. Alors, je mets de côté la question du calcul de l'empreinte écologique qui est, d'un point de vue intellectuel, scientifique, une foutaise.
Ça a de volonté de donner une idée.
Mais sur l'impact.
Consomme, en fait.
Mais la notion d'impact, c'est évident, on est bien d'accord. Mais c'est le calcul. Parce que c'est très important. Pour moi, c'est une manipulation idéologique. C'est que le calcul, en gros, tu transformes des mètres cubes de consommation de bois d'eau en mètres carrés virtuels. Même Jésus. Toi, Jésus, il avait tenté le coup avec les. Sauf que t'as des profs qui gobent ça, qui reproduisent ça. T'as des intellos ou pseudo-intellos qui te font passer ça. Et après, on te dit aux gamins dans la classe, attention, tu consommes tant d'eau, tant d'électricité. Le gamin, il est dans un processus quasi de culpabilisation et on lui demande pas la forêt qu'il y a dans ton coin, elle pourrait servir à quoi ? Les potagers ou la distribution de la nourriture dans ton quartier, dans ta ville. D'où vient la nourriture ? Non, mais tu vois ce que je veux dire ?
C'est une caricature quand même, parce que c'est en petite classe. Donc les instits, ils sont capables aussi de montrer autre chose.
J'espère.
Moi, j'en suis. suis sûr.
Ouais, j'espère. Cela dit, j'ai une jeune collègue qui a travaillé là-dessus. C'est effarant. Mmh.
Parce que c'est même pas l'éducation.
Les incites répètent le discours dominant aussi.
Ouais.
Mais dans toute la société, maintenant, en ces moments, ils nous disent comme il faut consommer, il faut se culpabiliser si on dépense des trucs en plastique, je sais pas. Et on se pose jamais la question de la production. Comment on produit les choses? Qui produit? Et il n'y a qu'un contrôle sur la production.
Ce que j'ai l'impression, c'est qu'on protège finalement l'industrie, parce que finalement, on renvoie aux gens l'idée que
c'est eux qui culpabilisent les gens, et pas l'industrie, c'est le capitalisme vert.
C'est-à-dire que c'est la position que je défends, c'est que une fraction des capitalistes est déjà depuis un bon moment a pris conscience que si la branche écologique sur laquelle sont assis leurs profits, c'est dangereux. Donc eux, ils luttent contre les court-termistes. Alors il y a des court-termistes, des spéculateurs, on est d'accord. Mais il y a toujours eu, dans le sein du capital et en particulier des États, des gens qui ont une vision à moyen et long terme. Hein, y compris ceux qui ont lancé l'industrie nucléaire. Hein, pour l'après-pétrole. D'accord? Ou pour autre chose. Il y a toujours des gens qui pensent un peu plus loin. Et qui pensent un peu plus loin que les militants aussi parfois. Et ceux-là, effectivement, derrière, ils préparent. Parce que ça va demander beaucoup de capitaux, parce qu'il n'y a plus de pétrole, il va falloir trouver autre chose, etc. Et en même temps, il faut entraîner la société derrière eux. Enfin, eux, c'est ce qu'ils veulent. Hein, il faut qu'on intègre leur discours, leur positionnement, leur repositionnement.
Ils nous font croire que c'est nous qui choisissons en bio, par exemple. Ouais. Et à la fin, on finit par consommer de l'huile des palmes bio qui a détruit la forêt amazonienne avec des... Ah, oui, elle est bio, voilà.
C'est comme le soja. Hein, c'est comme le soja. Si on veut tout remplacer par le soja, il va falloir défricher des centaines de milliers d'hectares, ce qui pose. Alors attention, je vais peut-être préciser les choses. Ça ne veut pas dire que des tentatives ici et là sur l'agriculture raisonnée ou l'agriculture durable, peu importe le mot, hein, qui est tout le mouvement de retour de la paysannerie via Campesina, etc., ce sont des choses très intéressantes. Mais justement, la bataille, elle est là. Et ce n'est pas qu'une bataille purement, pratico-pratique, c'est aussi une bataille idéologique, quasi culturelle.
Non, mais je sais bien, parce que ça va clore, faire un beau mot de la fin, vu qu'on arrive à la fin de cette demi-heure. Vous deviez faire qu'un quart d'heure, comme quand on arrive à faire une demi-heure. Je vais juste rappeler que donc le débat autour du livre Géographie et Anarchie est à 11h30. Est-ce que vous avez la salle sous les yeux? Parce que je ne l'ai pas. Bah bon, c'est affiché en bas, la salle du débat. Bon, c'est pas grave. Voilà. Et que donc c'est au Salon des Éditions Libertaires, 28 rue d'Enfer-Rochereau, pour continuer cette conversation en direct avec Philippe Pelletier et Renzo
Forero.
Forero.
Merci d'être venu.
Merci à Radio Canu.
Merci.